Place du Capitole, 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi en direct. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Je serai en duplex avec Violaine Héricourt-Dumas pour évoquer cet agenda. On parlera notamment des confirmations des adultes par Mgr Marc Caillé. Ce sera ce dimanche à Lescar et puis on va évoquer également avec elle un pèlerinage diocésain à Lourdes. C'est à l'occasion du centenaire de la béatification de Sainte Bernadette. C'est le week-end prochain. Direction également la librairie du Sanctuaire de Lourdes avec Coup de cœur en librairie. Nicolas Dargène nous présente un témoignage poignant, Un cœur joyeux de Louis Bouffard, édité chez MAM. C'était en 2023. Louis Bouffard nous livre un témoignage, une leçon de vie. Ce sera écouté aux alentours de 12h30. Et puis on va être également dans l'actualité avec en ce mois de juin la transhumance. On va suivre les bergers, les troupeaux grâce à un texte écrit par Joseph Pesquidou, originaire du Gers. C'est dans le regard des écrivains avec Anne Lasserre et Philippe Subercaz. Il vient tout juste d'arriver en studio. C'est David Torchalac, j'ai le plaisir d'accueillir.
Bonjour David. Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors habituellement vous êtes avec nous le lundi pour parler de l'actualité du diocèse.
Philippe Subercaz.
L'actualité du Sanctuaire de Lourdes. Mais si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est parce que c'est un jour un peu spécial, puisque c'est la fête de la radio.
Bah oui, c'est jour de fête, c'est la fête de la radio. Alors bah c'est l'occasion de vous faire découvrir un peu plus la radio de l'intérieur.
On vous retrouve dans un instant. Pour le moment, place à l'actualité régionale avec Coralie Guénan. Les titres à la une de l'actualité avec vous, Coralie de l'école de journalisme de Toulouse et juste après David Torchala donc pour la fête de la radio.
Dans l'actualité aujourd'hui, la communauté de communes Pyrénées-Haut-Garonnaises s'associe à l'organisme Écosystème pour une grande collecte solidaire de téléphones portables. 7 points de collecte sont mis en place autour de Bagnères de Luchon jusqu'au 14 juillet. Objectif, recycler et offrir jusqu'à 100 téléphones reconditionnés aux plus démunis. Un geste utile et solidaire pour la planète. Fin de la grève à Auch sur le manque de personnel après 23 jours de mobilisation au centre hospitalier spécialisé du Gers. Le personnel a obtenu des engagements concrets. L'ARS Occitanie soutiendra le recrutement de psychiatres et les psychologues en CDD pourront passer en stage de la fonction publique pour être titularisés. Une bactérie détectée dans les thermes d'Argelès-Gazos lors d'un contrôle de l'eau. Fin mai, la préfecture des Hautes-Pyrénées a donc ordonné ce lundi des restrictions sur les accès aux douches de certains soins. Le bâtiment, lui, reste ouvert pour les bains non concernés par la bactérie. Grand rassemblement dimanche au Mythe à l'invitation de Mgr de Quérimel pour le diocèse de Toulouse. Un moment pour invoquer ensemble l'Esprit-Saint. Vous pourrez d'ailleurs nous retrouver toute la journée car la radio animera la table ronde et réalisera des interviews des participants. Star Wars en ciné-concert au Zénith de Toulouse ce soir par l'Orchestre National du Capitole qui clôture leur saison. Près de 6000 spectateurs sont attendus, mais il reste encore quelques places sur le site du Zénith. Et enfin, finale de Pro D2 à Toulouse ce samedi à Ernest Vallon. Montauban affrontera Grenoble pour une place directe en top 14. Pour les supporters, Montauban organise une retransmission sur écran géant au stade de Sapiac. 7500 places seront disponibles, mais les conditions d'accès seront précisées prochainement. Une inscription pourrait être nécessaire.
Merci Coralie Guénan. On vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la radio, c'est l'occasion de rendre hommage à ce média qui traverse les murs, les montagnes et les vallées, et parfois même les cœurs. Bonjour David Torchala.
Et bonjour Gilles. C'est vrai, vous avez raison. Bah alors pour transverser les cœurs, les vallées, les montagnes, bah il faut émettre.
Hein. Exactement, et c'est pour ça que c'est pour nous l'occasion de parler hein, de ce média, un média qui n'existerait pas sans les auditeurs.
Oui, ça c'est vrai, évidemment. Et puis je crois que c'est le cœur battant, alors j'ai envie de dire certainement de toutes les radios associative, mais particulièrement de Radio Présence, on le sait, parce qu'on a vraiment à cœur de pouvoir être là avec vous, être une présence voilà pour nos auditeurs. Et alors que l'on soit ici depuis l'antenne de Lourdes, on est en direct, vous savez, nous sommes dans les tout proches hein, du sanctuaire de Lourdes, juste à la sortie de la basilique souterraine Saint-Pidis. Venez nous rencontrer, on vous ouvrira la porte, on vous le fera visiter. Mais nous sommes pas seuls, puisque évidemment, et eh bien Radio Présence, c'est aussi 5 radios, donc à Toulouse, la capitale, voilà, avec une grande équipe avec qui nous faisons des liens au quotidien, et puis aussi particulièrement avec Radio Présence Saint-Gaudens, avec Radio Présence Figeac et Cahors. C'est un très très beau réseau, et il y a une belle entente entre nous tous.
Voilà, quand vous dites un réseau, c'est vrai que ce sont des associations, c'est des radios associatives avec des bénévoles également qui font vivre nos radios.
Effectivement, chaque radio, Toulouse, Saint-Gaudens, Lourdes, Figeac, Cahors, est chaque fois une association qui est à part, mais nous nous animons, voilà, avec une autre association qui s'appelle l'ARDMP. C'est une structure, en fait, de moyens qui nous permet d'être en réseau les uns les autres et de pouvoir bien diffuser les sons, de pouvoir avoir des assistances techniques entre nous, de nous aider aussi sur le plan administratif. Mon Dieu, que l'administratif est important dans les radios, mais aujourd'hui c'est jour de fête, alors on rentre pas dans les dossiers durs, parce que c'est vrai que on ne peut pas improviser, on ne peut pas faire arriver une radio dans un paysage comme cela. Il faut, ce sont des radios qui sont contrôlées. Nous avons des autorisations de radio qui nous sont données par l'ARCOM, hein, anciennement le CSA, et donc voilà, il faut justifier, puisque les radios, Radio Présence, c'est vraiment un média de proximité, et fait vraiment partie du paysage des médias locaux, au même titre que la presse quotidienne régionale.
Voilà, et puis puisque nous sommes à Lourdes, Radio Présence Lourdes, ça fait plus de 30 ans que cette radio existe, avec des évolutions à venir, notamment, on en parle souvent, c'est le DAB, la radio numérique.
Et oui, on le sait tous, ça arrive, on ne sait pas trop quand ça va arriver, mais ça arrivera, enfin en tout cas c'est déjà lancé en partie, mais pas totalement généralisé. On se souvient tous, quand on a passé nos télévisions à la TNT, il a fallu acheter des boîtiers, il a fallu parfois dépanner les uns les autres avec les antennes, et puis après on a changé tous de télévision entre temps, et tout ça a été intégré, et on se souvient plus finalement de ce passage à la TNT. Ben finalement la radio va vivre la même chose, elle va passer au numérique. Alors si vous avez la chance, moi c'est pas mon cas, mais peut-être vous Gilles, hein, mais si vous avez la chance d'avoir une nouvelle voiture, alors ben évidemment sur les autoradios le DAB+ est déjà intégré, on voit hein, ces tablettes etc, avec ces écrans avec le détail des émissions, et donc en tout cas il est nécessaire, et Radio Présence a fait et a pris le pas de ce changement, de cette transition qui est très progressive, qui amènera un jour à l'arrêt de la FM, donc on arrêtera de tourner les boutons et pour arriver jusqu'à et capter la fréquence, et donc tout ça arrivera en numérique, mais c'est pas encore pour le moment. Et c'est quelque part une difficulté aussi pour nos radios, c'est qu'il nous faut continuer à diffuser en FM et également diffuser en DAB+, jusqu'à un moment, le passage complet. Et donc ça veut dire pour nous faire une double diffusion et donc payer deux fois la diffusion. Et ça, c'est plutôt difficile à porter pour les radios associatives, mais on sait qu'on peut compter sur le soutien de tous nos auditeurs.
Voilà, on a parlé des bénévoles, des salariés, de la technique, et on a une grande pensée pour vous, auditeurs de Radio Présence, parce qu'une radio sans auditeurs, c'est comme un micro sans voix, ça ne sert à rien.
Oui, ça c'est vrai, vous avez raison Gilles, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, nous on serait très heureux de vous lancer cet appel, enfin en tout cas d'ouvrir la porte de la radio. Et si vous venez nous rencontrer, voilà, on est à Cahors, on est à Figeac, on est à Toulouse, à Saint-Gaudens, à Lourdes, vous trouvez nos numéros de téléphone évidemment sur Internet, ben venez nous rencontrer, on est toujours très heureux de pouvoir voilà, montrer les studios. À Lourdes, vous verrez plusieurs studios, des studios, voilà, moi je suis dans le studio principal là en ce moment, et puis on a aussi un studio de télévision, puisqu'on fait de la radio filmée, et puis on a également aussi un studio à Tarbes, à la maison diocésaine Saint-Paul de Tarbes. C'est simple, c'est modeste, mais ça marche, et en tout cas, voilà, pourquoi pas, si vous venez, on sera très heureux de vous accueillir.
Voilà, et puis on a des auditeurs qui sont formidables, hein, puisqu'ils nous soutiennent tout au long de l'année, puisque vous l'avez dit, nous sommes une radio associative, et nous vivons des dons.
Évidemment, nous vivons des dons, et on le sait, on a toujours un peu de difficulté à toujours appeler aux dons, mais c'est vraiment absolument nécessaire. On vit des dons, on vit des subventions, notamment du ministère de la Culture, mais ces subventions ne sont pas suffisantes pour pouvoir couvrir tous les frais. Vous savez, un émetteur radio, pour que tout le monde arrive à bien comprendre quelles sont nos charges, c'est comme si vous mettez un chauffage à fond dehors toute la journée, tous les jours de l'année. Et donc, évidemment, ça coûte. Et quand on a une large zone de diffusion dans les radios, parce que c'est le cas, eh bien, il faut multiplier le nombre de radiateurs, j'ai envie de dire. Non, ce sont des émetteurs, mais c'est une grosse consommation électrique. Et puis, évidemment, c'est aussi du matériel,
Gilles. Voilà. Et puis, puisque vous parliez tout à l'heure du DAB, hein, sur certaines zones, il y a deux radiateurs qui fonctionnent en même temps.
Et voilà, on a dû multiplier les radiateurs. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes de très bons clients d'EDF et des fournisseurs d'énergie, mais en même temps, nous faisons très attention à nos charges. Nous avons une gestion extrêmement rigoureuse et strictement nécessaire au fonctionnement de la radio, car accueillir votre générosité, ça se mérite, et donc ça mérite derrière une transparence parfaite et une gestion extrêmement rigoureuse. Voilà, pour finalement, vous savez, notre objectif, c'est de parvenir à l'équilibre et de pouvoir continuer l'année prochaine à pouvoir continuer à émettre et être avec vous, avoir cette présence avec vous au quotidien.
Voilà, et puis on a des auditeurs qui nous soutiennent financièrement, et puis il y a des auditeurs également qui nous soutiennent au quotidien, qui nous informent parfois des pannes, par exemple sur certaines zones, des pannes des émetteurs, je pense par exemple à Argelès-Gazost.
Ah oui, alors voilà. mais ça c'est formidable, parce que nous, on ne peut pas être partout, et donc que vous soyez aussi nos oreilles et nous dire, ben là, ça grésille, ou après un orage, ou quoi, ben ça nous permet quoi, de venir, d'intervenir, de prendre la grande échelle, de monter en haut des émetteurs et d'aller voir ce qu'il se passe. Et donc c'est important, vraiment cette proximité, continuer à la faire. Et puis il y a aussi la proximité, on le sait, par la prière, et ça c'est propre à Radio Présence. Voilà, on sait que vous nous soutenez aussi en priant, et on sait que on permet de vivre ces grands temps spirituels, et puis ces célébrations. Je pense à la messe, à la grotte, au chapelet, à la grotte, voilà. Et donc on s'y emploie d'être chaque jour là présent pour vous le faire vivre. Et donc voilà, on se sent en tout cas soutenu.
Voilà, en ce jour de fête de la radio, donc nous fêtons bien plus qu'un média, on fête également une présence aux côtés des auditeurs, ces auditeurs que l'on remercie. Voilà, merci.
Ben oui, merci à tous. Voilà. Et puis c'est vraiment pas une parole en l'air. Prenez l'invitation, votre téléphone, venez nous voir, on sera ravis de vous accueillir.
Voilà, c'est la fête de la radio, bonne fête David. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Présence Lourdes, et puis bonne fête également à toutes les radios et toutes les radios associatives partout en France. Elles sont très nombreuses à couvrir le territoire.
Merci beaucoup.
Dans un instant, direction Bayonne, vous savez pourquoi ?
Je n'ai pas suivi, je suis arrivé en retard voilà, au studio, j'ai pas
c'est
entendu
Violaine Ricourt-Dumas.
Ah ben c'est Violaine,
voilà, évidemment. Violaine Ricourt-Dumas qui nous attend, on va détailler l'agenda. On parlera de Lourdes justement, puisque le diocèse de Bayonne-Lescaret-Oloron organise un pèlerinage le week-end prochain. C'est à l'occasion du centenaire de la béatification de Sainte Bernadette. On va en parler dans quelques instants. Merci David.
Merci et bonjour Violaine.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement et demain. Je referai le chemin, mais pas juste à des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. et demain.
C'était Vianney à 12h16.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
La vie dans les diocèses nous entraîne maintenant du côté de Bayonne. Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Avec vous, on va détailler l'actualité du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. On va parler dans un instant des confirmations de ce week-end. Mais pour débuter, un mot de la formation permanente de Pau qui propose une conférence dans les locaux de l'Immaculée Conception.
Tout à fait, c'est demain soir à 18h30. La formation permanente du Béarn propose de temps en temps des conférences qu'elle appelle les plus de la formation. Et ce sera l'abbé Amédée Badaka qui est sur la paroisse du Christ Sauveur qui va nous présenter Saint-Augustin. Saint-Augustin, maître spirituel pour notre temps. Ce sera donc dans les locaux de l'Immaculée Conception qui se trouve boulevard Édouard Herriot à Pau à 18h30 demain soir. Donc l'occasion de découvrir Saint-Augustin justement avec notre nouveau pape qui est augustinien. Ça peut être intéressant de découvrir la spiritualité de Saint-Augustin.
À l'occasion des 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial, une exposition est proposée à Pau.
Alors en effet, c'est un grand événement pour notre diocèse, ce sera pendant tout le mois de juin. Les reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque et de Saint Claude la Colombière, qui était le père spirituel de Sainte Marguerite Marie, qui a vécu ces apparitions du cœur de Jésus à Paray-le-Monial. En fait, vous le disiez, les 350 ans de ces apparitions. Et c'est la chapelle d'adoration de Pau qui organise la venue de ces reliques. C'est un cycle de plusieurs années pour prier pour les vocations. Donc l'année dernière, on avait fait venir les reliques de Carlo Acutis. On avait aussi fait venir les reliques du Saint Curé d'Ars. Et donc cette année, c'est Marguerite Marie à la Coque et Saint Claude la Colombière pour prier plus spécifiquement pour les vocations religieuses. Elles arrivent samedi. Le curé de la paroisse de Pau, de la Sainte Famille de Pau, est en train d'aller chercher ses reliques. Et donc à partir de samedi, il y aura beaucoup de manifestations pour accueillir ces reliques et les vénérer tout au long du mois de juin. Donc à Pau, ce sera l'installation samedi à 16h à l'église Sainte-Thérèse, puisque c'est à côté de cette église que se trouve la chapelle d'adoration. Ensuite, lundi, il y aura une soirée avec les gens du voyage à partir de 17h30. Il y aura aussi des conférences durant toute la semaine. Et puis l'ouverture solennelle, ce sera jeudi prochain avec Monseigneur Hayet qui viendra célébrer la messe à 19h, puisque c'est tous les jeudis soirs qu'il y a l'adoration communautaire à Sainte-Thérèse. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de la paroisse de la Sainte Famille de Pau. Vous tapez Sainte Famille de Pau, vous retrouvez toutes les infos, ou alors sur le site du diocèse, diocèse64.org, pour l'exposition de ces reliques qui seront donc présentes à Pau, à Sainte-Thérèse, durant tout le mois de juin, et qui vont aussi pérégriner dans tout le diocèse. Il y a une carte où on peut voir à quel endroit elles vont pérégriner. Il y a deux reliques, donc il y en a une qui restera à Pau et l'autre qui se déplacera dans le diocèse.
La confirmation des adultes par Mgr Marc Caillet à l'Escar, c'est ce week-end, ce dimanche.
C'est ce dimanche et on a beaucoup, beaucoup de confirmants adultes cette année encore. Il y en a 93 en tout qui sont prévus, 23 du Pays Basque, 70 du Béarn. Il y en a qui ont déjà été confirmés dans leur paroisse, par exemple avec leurs enfants. Mais dimanche, il y aura 82 personnes confirmées par notre évêque, Mgr Ayet. Il y aura aussi l'évêque émérite du diocèse, Mgr Pierre Moller. Et ce sera à 16h à la cathédrale Notre-Dame de l'Escar, jour de la Pentecôte, donc l'occasion de prier pour toutes ces personnes adultes qui vont être confirmées ce dimanche 8 juin à 16h à la cathédrale de l'Escar.
On poursuit avec la dernière rencontre de l'école de prière à Pau, c'est mardi.
Oui, c'est nouveau de cette année, cette école de prière avec enseignement et pratique. C'est l'abbé Pierre Aranburu qui est le nouveau responsable de la formation permanente du Béarn qui a lancé cela cette année. Ce sera mardi prochain au centre diocésain du Béarn qui se trouve toujours 36 avenue de l'église Saint-Joseph. C'est soit à midi, soit à 20h30. C'est la dernière rencontre annuelle donc pour cette école de prière qui reprendra sûrement à la rentrée prochaine.
On part maintenant pour le week-end du 14 juin, samedi 14 juin, pèlerin d'espérance avec Sainte-Quitterie.
C'est Cotopaïs, le centre spirituel jésuite qui organise une journée à Sainte-Quitterie, donc le sanctuaire de Sainte-Quitterie qui se trouve au nord-ouest de Pau, près de l'aéroport, pour donc une journée de 10h à 17h, samedi 14 juin, pour marcher ensemble, prier, pèleriner, donc pèlerin d'espérance, puisque c'est le thème de l'année sainte de cette année. Il faut s'inscrire avant le 10 juin, c'est pour ça qu'on vous l'annonce dès aujourd'hui, pour cette journée avec Cotopaïs, donc samedi 14 juin, toute la journée, au sanctuaire de Sainte-Quitterie.
À l'occasion du centenaire de la béatification de Sainte Bernadette, un pèlerinage est organisé le week-end prochain à Lourdes.
Oui, c'est de jeudi à samedi. C'est le nouveau responsable du service diocésain des pèlerinages, l'abbé Jean-Jacques Dufaux, qui était auparavant curé à Pau, qui organise ce pèlerinage donc à Lourdes, puisque c'est le centenaire de la béatification de Bernadette de Lourdes. Et c'est vrai que c'est tout près de chez nous, donc c'est l'occasion d'aller pèleriner ensemble entre diocésains pour fêter cette béatification. 12 au 14 juin avec le service diocésain des pèlerinages.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Diocèse64.org vous permet de retrouver l'aspect pratique dans l'onglet agenda avec les horaires, les sites internet et d'autres événements qui auront lieu dans les prochaines semaines. Un grand merci Violaine Ricourt-Dumas et puis à l'occasion de la fête de la radio, je vous souhaite une bonne fête puisque on vous entend régulièrement sur Radio Présence.
Merci Gilles et bonne fête à vous alors si c'est aujourd'hui.
Merci et bonne semaine donc à Bayonne, à très vite.
Présence à Salis-du-Salat 94.1.
Après Bayonne, direction Lourdes, dans un instant, la librairie du sanctuaire de Lourdes. Nicolas Dargegène va nous présenter un témoignage poignant, ce livre, cet ouvrage qui s'appelle « Un cœur joyeux » de Louis Bouffard, qui a été édité chez Maman en 2023. Louis Bouffard est atteint d'une maladie dégénérative. Il va nous livrer une leçon de vie juste après les trois cafés gourmands. L'actualité régionale, ce sera donc juste après 12h30.
J'aurai 10 ans, je grimperai en haut du cerisier. J'aurai perdu ma 8e dent, je serai ceinture jaune de karaté. J'irai jouer avec les grands, je ferai un bisou à Salomé.
L'année prochaine, j'aurai 20 ans et j'irai parcourir le monde. Premier tatouage, énième amant, la vie sauvage à la seconde. La famille qu'on s'est dessinée, des frangins pour l'éternité.
J'aurai 30 ans, j'arrêterai enfin les conneries. Je songerai à faire des enfants, j'en aurai que pour mon chéri. J'ai la meilleure version de moi-même, j'ai le bonheur façon challenge. J'aurai des moments accomplis et mes premières séances de tout.
L'année prochaine, j'aurai 40 ans, je m'écouterai enfin. Divorcé de ces engagements qui ne me ressemblaient en rien. Je ferai des excès, mais sereinement, en disant que j'ai tout mon temps.
mieux. Même si mes genoux m'annoncent le temps, je cours toujours plus vite que mon vœu. Je regarde les oiseaux s'envoler et à chaque saison repasser.
L'année prochaine, j'aurai 60 ans. Je donnerai raison aux insomnies.
Je donnerai raison aux petits-enfants, plus souvent à leur mamie.
Face au miroir, il est grand temps que j'aie enfin de compromis.
Ma vie ne sera plus belle qu'avant.
Ma vie aussi.
Les années filent comme des secondes. Je n'ai même pas vu passer le temps. Même si j'ai fait le tour du monde, qu'est-ce que j'ai compris du présent? Qu'est-ce que j'ai retenu de la ronde? Des hommes, des femmes et des enfants. Que la vie, mon grand. Oui, la vie, mon grand. Le tour du monde, qu'est-ce qu'on a compris du présent? Qu'est-ce qu'on a retenu de la ronde? Des hommes, des femmes et des enfants. Que la vie, mon grand. Oui, la vie, mon grand. C'est mon.
Radio Présence à Gourdon. 104.8.
Et merci d'avoir choisi Radio Présence en plein cœur de Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans un instant, direction la librairie du Sanctuaire de Lourdes avec Nicolas Dargène qui va nous présenter un ouvrage qui s'appelle Un cœur joyeux. Ouvrage écrit par Louis Bouffard et publié chez MAM. C'était en 2023. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec le journal présenté par Coralie Guénon de l'École de journalisme de Toulouse. Bonjour Coralie.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, la communauté de communes Pyrénées-Haut-Garonnaises s'associe à l'organisme Écosystème pour organiser une grande collecte solidaire de téléphones portables. Dans le département, il y aura 7 points de collecte à Bagnères-de-Luchon, à Marignac, à Saint-Béalaise, à Moustajon et à Gourdan-Polignan. Un geste utile pour la planète qui permettra aussi d'offrir jusqu'à 100 téléphones reconditionnés en faveur des plus démunis grâce au Resto du Cœur et à la Croix-Rouge. Si vous souhaitez participer, cette collecte dure jusqu'au 14 juillet. Fin de la grève à Auch sur le manque de personnel après 23 jours de mobilisation au centre hospitalier spécialisé du Gers. Des engagements concrets ont été obtenus, personnel et syndicats alertés sur la pénurie de psychiatres. Le directeur de l'ARS Occitanie, Didier Jaffre, a annoncé qu'il aiderait au recrutement des médecins. Il s'est aussi engagé à passer en stagiaire de la fonction publique les psychologues en CDD pour qu'ils puissent à terme être titularisés. Une bactérie détectée dans les thermes d'Argelès-Gazos lors d'un contrôle de l'eau fin mai, c'est la Legionella pneumophila. La préfecture des Hautes-Pyrénées a donc ordonné ce lundi des restrictions sur les accès aux douches de certains soins, des cabines de kinésithérapie en particulier. En revanche, le bâtiment, lui, reste ouvert pour les bains non concernés par la bactérie. Grand rassemblement dimanche au Mythe à l'invitation de Monseigneur de Quérimel pour le diocèse de Toulouse. Un moment pour invoquer ensemble l'Esprit Saint. Il y aura des témoignages, conférences, louanges, prières, concerts, une messe de Pentecôte et des confirmations. Vous pourrez d'ailleurs nous retrouver toute la journée car la radio animera la table ronde et réalisera des interviews des participants. Star Wars en ciné-concert au Zénith de Toulouse ce soir par l'Orchestre National du Capitole qui clôture leur saison. Ils joueront la musique emblématique de John Williams, oscarisée en 1978 pour la meilleure musique du film Nouvel Espoir. Près de 6000 spectateurs sont attendus, mais il reste encore quelques places sur le site du Zénith. Et enfin, finale de Pro D2 samedi à Toulouse, à Ernest Vallon, l'Union Sportive Montalbanaise affrontera Grenoble. Un match de fin de saison où les deux équipes se défient pour une place directe en top 14 la saison prochaine. La ville de Montauban propose pour ses supporters une retransmission sur écran dans le stade de Sapiac. 7500 places sont disponibles, mais les conditions d'accès au stade seront précisées ultérieurement. Il faudra sans doute s'inscrire pour réserver sa place.
Merci Coralie Guénon de l'École de journalisme de Toulouse. Voilà pour l'actualité régionale. À 13h, c'est l'actualité
nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. On va rester dans l'actualité dans les prochaines minutes sur Radio Présence, puisqu'en ce mois de juin, c'est la période de la transhumance. On va suivre des bergers et leurs troupeaux grâce à un texte écrit par Joseph Pesquidou, originaire du Gers. C'est dans le regard des écrivains sur les Pyrénées. Ça sera avec Anne Lasserre. Pour le moment, on retrouve Nicolas Dargène, coup de cœur en librairie.
Présence.
Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un témoignage poignant, Un cœur joyeux de Louis Bouffard, édité chez MAM en 2023. L'auteur est un jeune homme qui n'a pas encore 25 ans. Il nous livre son témoignage, un témoignage lumineux comme l'indique le sous-titre du livre. Louis est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, 2 garçons et 5 filles. La petite dernière est porteuse de trisomie 21. Louis est atteint d'une maladie dégénérative, la myopathie de Duchenne. Cette maladie l'a privé de l'usage de ses jambes et de 8 de ses 10 doigts. Comble du malheur, en 2021, Louis perd sa maman qui fait une mauvaise chute de cheval. Certains seraient sans doute au fond du trou avec cela, mais lui, non. Car Louis est un battant, il aime la vie, il possède en lui une flamme qu'il a appris à entretenir précieusement, comme il le dit, comme une vestale entretient le feu sacré. Depuis quand entretient-il cette flamme, il ne le sait pas. Depuis toujours, sans doute. Depuis toujours, il vit avec cet amour de la vie, cette force qui le fait avancer et qui lui ont permis de suivre des études à la Sorbonne. Louis nous donne une sacrée leçon de vie. Pour moi, la maladie n'est pas une injustice. Il n'est pas injuste, mais éprouvant d'être malade, handicapé ou orphelin. La justice n'a rien à voir là-dedans. Il a perdu l'usage de ses jambes lorsqu'il avait 10 ans, après avoir lutté pour continuer à marcher. Une lutte de quelques mois qui avait marqué les médecins. Le petit Louis avait déjà une grande volonté, une force de vivre. Et puis, l'inévitable est arrivé, et un matin, il n'a pas réussi à se lever. Mais c'est à ce moment-là qu'il a senti quelque chose de nouveau en lui. Un surcroît de vie, et il sait qu'elle vient de Dieu directement. Il l'écrit lui-même. Dans une histoire pour enfants, on l'aurait mis sur le compte d'une bonne fée de passage, qui de sa baguette magique aurait effleuré ma poitrine et déposé dans mon cœur une nuée bleutée et scintillante. Mais les fées n'existent que dans les contes. À 10 ans, je l'avais compris, et j'avais reconnu l'empreinte de Dieu. On m'avait annoncé que Dieu passait dans les vies comme le murmure d'une brise légère, plutôt que comme un ouragan, un tremblement de terre ou un feu. À 10 ans, calmement et sans m'y attarder, j'avais reconnu en moi cette patte divine. Et son livre témoignage est une description de vie joyeuse dans une confiance totale dans le Seigneur. Cela pourrait être énervant et on est en droit de se dire « mais il ne flanche jamais, il est toujours comme cela ». Eh bien, sans tout dévoiler du livre, je dirais que oui, il flanche parfois. Comme il le dit, sa vie est joyeuse, sauf les jours sans. Et il est parfois usé par la maladie. Puis d'autres fois, il doit combattre des crises spirituelles, l'impression d'être abandonné de Dieu et puis la peur de rester seul. Son témoignage nous ramène vers l'essentiel. Il nous montre à quel point les petites choses simples ont de la valeur. Il nous montre à quel point sa foi l'aide à porter son handicap. Il ne nie les difficultés et ne nous montre pas que le handicap est facile à porter. Non, mais par contre, il nous montre comment il arrive à sublimer sa vie et à surnaturaliser sa fragilité. Louis nous montre comment les faiblesses ouvrent vers des relations vraies et combien la rencontre avec les autres nous élève humblement et nous entraîne immanquablement vers un Dieu d'amour. Et pourquoi parler aujourd'hui de cet ouvrage sorti il y a déjà quelques années? Eh bien parce que l'actualité législative nous oblige à mettre en avant ce genre de témoignage. En effet, les projets de loi sur la fin de vie nous laissent présager un avenir assez noir pour les personnes fragiles et handicapées et pour l'être humain en général. Louis Bouffard fait partie de ceux qui sont considérés comme éligibles à l'aide à mourir. Et il est important de les entendre, ces éligibles, car ils manifestent justement pour être éligibles au droit de vivre accompagné et aidé. On a besoin de les entendre crier au monde leur amour et leur soif de vivre. Justement, il y a quelques jours, alors que le projet était en débat à l'Assemblée nationale, Louis Bouffard a prononcé un discours. Ce discours magnifique, je voudrais le partager avec vous, car il est d'une grande beauté, d'une grande émotion et en même temps frappant, car il est révélateur que notre humanité ne va pas bien, si elle ne prend pas en considération la dignité des personnes fragiles. Louis nous dit « Comme vous pouvez le voir, je ne marche pas, je ne peux pas me nourrir seul, je suis dépendant à 100% pour tous les gestes du quotidien, me laver, m'habiller ou boire. Même pour enlever une mouche posée sur le bout de mon nez, j'ai besoin d'aide. Je me déplace grâce à un fauteuil roulant, je dors avec une assistance respiratoire depuis plus de 12 ans et bientôt j'en aurai certainement besoin toute la journée. » Je suis atteint d'une maladie dégénérative et incurable qui s'appelle la myopathie de Duchenne. Ce qui veut dire que mon état, qui est déjà fragile, va continuer à se dégrader. Et pourtant, je vous assure que je suis pleinement vivant. Et surtout, Même si l'évolution de maladie est inexorable, j'aime la vie. Ma vie fragile est immensément belle, digne jusqu'au bout. Je perds peu à peu mes forces, mon autonomie. Mais il y a une chose que je ne perdrai jamais, ma dignité. Car la dignité ne dépend pas de ce qu'on peut en faire. Elle ne s'use pas quand le corps s'abîme. Elle ne s'atrophie pas avec mes muscles. La dignité, elle est en nous, intrinsèque, inaliénable, intouchable. Je voudrais vous partager une profonde expérience que j'ai vécue il y a 4 ans. Après une chute de cheval, ma mère est tombée dans le coma. La veille de sa mort, alors que les médecins nous avaient préparés au pire, toute la famille s'est retrouvée à l'hôpital à son chevet. Et il y a eu un geste qui restera à jamais gravé dans mon cœur et ma mémoire. Mon frère a pris ma main, cette main inanimée qui semble inutile à tant de personnes, et il l'a déposée sur celle de ma mère. Par ce simple contact, j'ai pu lui dire tout l'amour de fils que j'avais pour elle. Et je sais que cette vie que je porte en moi, que tout mon amour, elle les a ressentis. Oui, la vie jusqu'au dernier instant est précieuse. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, et merci d'être venus si nombreux, parce qu'une proposition de loi sur l'aide à mourir visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté est en train d'être débattue à l'Assemblée nationale. Ces débats créent en moi une profonde angoisse. En les écoutant, j'en arrive à me demander à ce qu'un jour je ne serai plus digne de vivre. Car la maladie que je porte, elle évolue. Et petit à petit, ma vulnérabilité grandit. Est-ce qu'à un moment donné, je serai rejeté de la communauté humaine à cause de la dégradation de mon état de santé? Aujourd'hui, je veux vous le dire avec force, moi j'aime la vie. Et ma vie, même fragile, est belle. Ce projet de loi, ce n'est pas un progrès, c'est une régression. Cette loi fera peser sur nous une pression sociale pour nous éliminer. Quand on nous déclare en permanence que vous êtes un poids pour vos proches, une charge pour la société, une lourde dépense, que vous êtes trop dépendant ou trop seul, alors le désir de mourir peut surgir. Mais ce désir, c'est un immense appel à l'aide, un appel à être aimé, c'est un cri de vie. La proposition de loi sur l'aide à mourir franchit une ligne rouge. Elle ouvre la porte à la légalisation d'une mort administrée. Elle fait passer un signal terrible à tous ceux qui, comme moi, sont en situation de grande dépendance. Votre vie est trop dure, vous avez le droit de mourir, et peut-être même le devoir. Je ne veux pas de cette société-là. Je veux une société qui dise à chacun « Tu es important, tu comptes et on restera à tes côtés jusqu'au bout ». Il n'y a pas un choix binaire à faire entre souffrir ou mourir. Il existe une troisième voie, un chemin d'humanité et d'espoir, celui des soins palliatifs. Être soulagé, être entouré, être accompagné, être aimé, jusqu'au bout. Pas dans la solitude, pas dans l'abandon. Avec cette promesse faite par les soignants à chacun de nous, celle de la présence et non de l'abandon. Les soins palliatifs, ce n'est pas laisser souffrir. C'est refuser que la souffrance ait le dernier mot. C'est apaiser, c'est consoler. Ça ne supprime pas la fin, mais ça donne un sens à cette fin. Je veux une société qui dise « Nous sommes les éligibles. Éligibles à l'accompagnement, éligibles aux soins, éligibles à l'amour, pas à la mort. Et tant que nous pourrons parler, nous dirons « Chaque vie humaine est digne jusqu'au bout ». Ce discours, il nous remue tous, que l'on soit touché de près ou de loin par la maladie ou le handicap, que l'on soit soignant ou pas. Il nous touche tous et doit surtout nous toucher tous dans notre humanité. Car c'est de dignité humaine que l'on parle. Et le témoignage bouleversant de Louis Bouffard, son livre, nous permet de découvrir à quel point toute vie est digne et mérite d'être vécue. Un cœur joyeux de Louis Bouffard, édité chez Mann en 2023, peut être trouvé à la librairie du Sanctuaire de Lourdes et dans toutes les librairies.
Merci à Nicolas d'Argengène, voilà, coup de cœur en librairie. Je vous rappelle le nom de cet ouvrage, Un cœur joyeux de Louis Bouffard, édité donc chez MAM en 2023. On poursuit et on reste dans l'univers de la lecture, direction les Pyrénées, le regard des écrivains sur les Pyrénées. L'auteur cette semaine, c'est Joseph Pesquidou, Philippe Subercaz et Anne Lasserre.
Radio Présence à Figeac, 97.7. Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors c'est vrai que si on regarde la télé, il y a pas mal de reportages sur la transhumance. Eh bien, on va être dans l'actualité avec vous cette semaine, Anne, puisque nous allons suivre des bergers et leurs troupeaux grâce à un texte écrit par Joseph de Pesquidou, dont la famille est originaire du Gers.
Oui, ses parents possédaient un château dans le Gers. Tout en composant de nombreux ouvrages, Joseph de Pesquidou à la demande de son père, va gérer le domaine familial.
Et c'est pour cela que dans la plupart de ses livres, il évoque la vie rurale.
Et il décrit aussi les rites et les mystères de la vie rurale avec un grand sens de l'observation, mais aussi, Philippe, avec une grande poésie.
On peut dire qu'il a écrit pour célébrer son pays, la Gascogne, et peut-être aussi pour ramener au pays tous ceux qui l'ont quitté après la Grande Guerre, malheureusement.
Et oui, il y avait eu ces grands départs.
Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un personnage devenu mythique, le berger. Voilà, on vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Joseph de Pesquidou, qui vécut en Armagnac, célèbre dans ses ouvrages les travaux de la terre, les coutumes de son pays. Il est sensible à l'éclat du jour sous le ciel familier, à l'odeur du sol, des feuilles et des fleurs, au bruit du vent dans le chêne tout proche, à la chanson d'un bouvier au crépuscule. Dans son ouvrage, au titre évocateur, « Chez nous », il évoque aussi les bergers de la montagne, et voici ce qu'il écrit. Ils sont partis au premier bourgeon, dès que la vigne fraîche taillée a sorti ses boutons cotonneux, ils ont sifflé leurs chiens, rallié leurs ouailles et pris la route. Car, sans montre, sans aucun moyen mécanique de mesurer le temps, comme ils lisent l'heure au soleil, le jour et la nuit aux étoiles, ils comptent les mois écoulés et relèvent le moment des départs et des retours sur la face de la terre. Et suivant son aspect à saison fixe, on est sûr de voir apparaître à l'automne et s'évanouir au printemps leur visage rasé, au nez aquilin, à l'œil aigu, et d'apercevoir par-dessus le peuple au corps laineux, leur silhouette, maigre et haute, qui vient ou qui s'en va, en se balançant. En tête, l'âne s'avance, libre et guidé seulement de la voix, il tient le milieu du chemin. De larges sacs en peau de chamois, sanglés sur son échine, retombent de chaque côté de son dos. L'un contient les effets de rechange du berger, l'autre est empli d'agnelets qui, fatigué, y achève l'étape. L'âne va, grave et doux, et parfois, tournant l'encolure, il flaire et caresse des lèvres les petites têtes bêlantes, passées pour respirer à l'ouverture du sac. Les brebis suivent derrière, pêle-mêle. Deux grands chiens à longs poils roux ou gris les surveillent ou les poussent. Et le berger ferme enfin la marche. Et toute la masse vivante, dévalant du haut d'une côte, traînant le long des fossés, grossit ou diminue dans le lointain, insoucieuse de l'heure, comme ceux qui émigrent et changent souvent d'habitat. Puis tout se perd. Le chemin reprend son vide, le bruit des piétinements s'éteint et quelques coups de sifflet de moins en moins stridents, apportés par le vent, rappellent seul le passage de la foule animale. 8 ou 10 jours, laissant retomber la poussière autour d'eux, ils vont aller à la montagne, dans le sens opposé des eaux. Le jour, en chemin, les gens de la campagne leur crieront des saluts d'amitié et dans les bourgs traversés, les artisans leur achèteront des agneaux pour la fête prochaine. La nuit, ils logeront dans des étables de fortune ou sous des frondaisons naissantes, au bord des rivières et des ruisseaux rencontrés. Et, un moment, sur les berges molles, ils laisseront se reposer et se rafraîchir les pieds de leurs bêtes. Et les pays reverdis, sentant le printemps, les mèneront par tous leurs sentiers vers les vallées natales, celles de Cotteret, de Bagnères ou de Luchon, depuis si longtemps quittées. Là, les femmes et les enfants, à l'entrée des clos en avant des villages, les attendent, les bras tendus. Un matin, comme un flot houleux empourpré d'aurore, attiré, on dirait, par tant de mains avides, ils arriveront sur leurs biens. Silencieusement, leurs femmes et leurs filles s'attacheront à leur cou et leurs petits garçons à leurs jambes. Et tandis que, fous de joie, les chiens bondiront autour de la maison retrouvée, tandis que les brebis, à la suite de l'âne, envahiront l'étable balayée, père et mère et enfant, en jetant un regard ému à cette terre revivante dont la résurrection ramène le maître, passeront l'humble seuil dans la lumière de l'âme et dans le ruissellement du jour. Et tout près, sortant petit à petit du brouillard pour fêter aussi ce retour, la montagne amie se haussera dans le soleil. Courte halte de quelques semaines à peine pour embrasser leurs femmes, pour bercer et caresser leurs enfants. Comme les serviteurs d'Abraham, les bergers de la montagne sont voués aux soins de leurs troupeaux et attachés à l'errance de leurs bêtes. Si l'herbe nouvelle les a ramenés chez eux et rassis un instant à leur foyer, une autre herbe qui croît là-haut les convie déjà. Ils ont beau retarder la garde du matin et abréger celle du soir, toute la nature épanouie les achemine vers l'exil. Leurs ouailles elles-mêmes les sollicitent. Elles hument l'air tourné vers les cimes. Elles abandonnent d'épine en épine quelque chose de leur paix et de leur toison. Il faut les rassérénés, il faut les tondre, et c'est le signal de l'adieu. Les femmes à la hâte revoient les vêtements des partants. Tous les hommes valides, des couvertures sont chargées sur le dos des ânes, des chiens des Pyrénées sont adjoints aux autres, à ceux qui ne font que surveiller le troupeau. Enfin, une par une, les brebis des vêtues sont marquées. Celle de telle étable d'un trait rouge, celle de tel parc d'une raie bleue ou verte ou jaune. Et tout est prêt. Ils vont. Devant eux, la montagne grandit dans le matin. Ils l'atteignent. On prend la file pour monter. Les bêtes forment de longs anneaux blancs mobiles. On gravit lentement. Les ânes sont chargés, les brebis musent en happant les touffes flairées. C'est la zone des bois. Puis on entre sous les sapins, on s'élève. Et voici les mélèzes et les pentes raides et les gorges à pic. Il est midi, on fait halte. On mange debout, vite, les chiens en rond autour de soi. Ensuite, en route. Tout à coup, le sol reverdit. Sur la moindre parcelle de terre, la fraise pourprée abonde et les relles sucrées en grappe et la framboise velue, encore verte. Un cri vibre, on arrive. C'est là que les bergers vont passer de longs mois, dans des cabanes rudimentaires, sans cheminée, sans autre ouverture qu'une porte basse. Chaque semaine, l'un d'entre eux descendra pour chercher des vivres. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Joseph de Pesquidou, ouvrage intitulé « Chez nous » et publié en 1921.
On peut préciser aux auditeurs, qui n'aurait pas entendu une précédente chronique consacrée à Joseph de Pesquidou, que cet écrivain est mort au Houga, dans le Gers, en 1946, 10 ans après avoir été élu à l'Académie française quand même.
Oui, et dans son œuvre, Philippe, il fait l'éloge du travail de la terre. Il évoque les gens, les bêtes et les choses de son pays, la Gascogne.
Et dans le passage que vous avez retenu, il s'intéresse aux bergers. La figure du berger est étroitement liée à la montagne, car à la belle saison, les troupeaux gagnent les pâturages.
Et leur bagage au 19e ou au début du 20e siècle était réduit à un chaudron, c'était terrible, dans lequel faire cuire la soupe ou une bouillie, un moule en fer blanc pour le fromage, une cape et une couverture.
C'était une drôle d'époque quand
oui,
même.
Oui, c'était bien peu.
Eugène Viollet-le-Duc, qui a 18 ans quand il vient dans les Pyrénées, partage le repas d'un berger. Une tranche de pain noir sur laquelle le berger verse de l'eau chaude dans laquelle a cuit un petit morceau de lard. Ouais, c'était pas, voilà.
Ce n'était pas grand-chose. Et c'est pour cela que Ramon de Carbonnière constate à la fin du XVIIIe siècle que le berger des Alpes mène une existence plus aisée que celui des Pyrénées.
Mais cela n'empêche pas les voyageurs d'idéaliser la figure et du berger.
Et oui, on en faisait un personnage un petit peu mythique.
Oui, oui, oui. Et puisque à une époque aussi, vous nous l'avez dit, les Pyrénées, tout ce qui était en montagne, ça faisait peur.
Voilà, donc, et en même temps, on pensait qu'on allait y retrouver un paradis perdu au 19e siècle.
La semaine prochaine, nous irons gravir le pic d'Any en compagnie d'Albert Laporte qui, en 1876, parcourt les Pyrénées avec son sac à dos. Voilà. Eh bien, c'est notre prochaine destination. Je vous souhaite une excellente semaine, Anne. À la semaine prochaine.
Excellente semaine à vous aussi, Philippe.
Et merci, Anne Lasserre. Philippe reste avec nous puisque direction maintenant le jardin avec les Causeries Vertes et Annick Baléry.
Présence.
C'est quelque chose que les gens aiment particulièrement. On en mange souvent des fois aussi à l'apéritif. On va parler des amandes, mais les amandes, on peut l'avoir sur des cosmétiques, on peut le consommer. Enfin, voilà. Bonjour Annick Baléry d'abord.
Bonjour Philippe.
Ben oui, j'ai oublié, j'étais déjà à l'apéro avec en train de clignoter quelques amandes de clier. On va parler des amandiers avec vous dans ces causeries vertes. Comme je disais, les amandes, on les met un petit peu à toutes les sauces.
Il
y a des shampoings aux amandes,
il y a la truite aux amandes.
Il y a la truite aux amandes, il y a les amandes grillées qu'on peut picorer pendant l'apéritif. Voilà, les amandiers, c'est la chronique aujourd'hui. Vous allez tout nous dire sur les amandiers.
Voilà, alors à un moment où le climat se réchauffe.
Il se réchauffe le climat.
Oui,
depuis quelques temps, on n'a pas.
Oui,
pas l'impression.
Nous, à ce moment, on va bien, mais en Inde, ils crèvent de chaleur. Et bon, voilà, c'est local. Et. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les premiers producteurs mondiaux d'amandes, c'est-à-dire la Californie, ils sont en train d'arracher leurs arbres parce qu'ils n'ont plus d'eau.
Ah, c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau.
Comme tous les arbres, ça a besoin d'un minimum quand même. Et là, comme c'est la sécheresse, ils ont épuisé pas mal des nappes phréatiques qu'ils ont pompées avec énergie, parce qu'à côté de ça, il y a aussi les vergers d'agrumes en Californie, et que le jus d'orange, ça se fait pas avec l'air du temps.
Oui.
Il faut beaucoup d'eau. Et donc, ils sont vraiment en détresse et ils arrachent. Donc
Le cours de l'amande va grandir.
Exactement. Et ça va devenir peut-être quelque chose d'intéressant à cultiver en Europe. Ah. Alors, déjà en Espagne, il y a des arrachages d'oliviers qui sont suivis de plantations d'amandes.
Enfin, en Espagne, question eau aussi, ils sont un petit peu en manque.
Mais bon, c'est pas. Voilà.
Pas partout. Pas
mais et puis, ça peut devenir intéressant. Comme vous dites, à partir du moment où, où les cours montent et où le besoin mondial n'est pas comblé. Voilà. Donc, les Californiennes, dans un premier temps, ont pensé à aller chercher de l'eau au Canada. Avec des conduites, mais ils s'y sont pris l'année où le Canada a connu la sécheresse, donc raté. Voilà. Donc
si vous avez des amandes, gardez bien gardez-les parce que ça va devenir rare. Hein.
Ça va devenir rare. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui commence à être mis en place donc autour du bassin méditerranéen et en particulier dans les zones du côté de Perpignan, enfin dans le sud-est où une maladie a ravagé les pêchers. Parce que voilà, il y a pas que nous qui sommes malades.
Oui.
et donc l'alternative, c'est de planter de l'amandier. En plus, c'est un arbre qui, pour la pollinisation, aime beaucoup le vent, donc c'est plutôt favorable. Les plus précoces arrivent en floraison en février, à un moment où les insectes ne sont pas trop de sortie. Et c'est vrai que le vent va permettre une bonne pollinisation et ça peut être intéressant.
Alors en février, ici, des fois, on a des gels.
Oui, alors il existe des amandiers tardifs et des amandiers spéciales nord de la Loire, donc qui devraient pouvoir se plaire chez nous. Il y a eu des recherches dans les années 70 de la part de l'INRA, qui s'appelle l'INRAE maintenant, et ils ont développé pas mal de variétés à floraison tardive, et puis une fois que l'amande est formée, bon, ça, tout va bien. Et donc voilà, essayez. Enfin, je sais qu'à Tarbes, la municipalité en a planté dans un cimetière et que c'est vraiment un succès.
D'accord.
Alors, imaginez, ça doit être charmant en plus. Non, mais c'est vrai, quand on n'a pas le moral et qu'on se retrouve en plein hiver avec les arbres en fleurs et une ou deux abeilles qui traînent, ça peut être chouette. Quoi. Voilà. Et donc ça marche plutôt bien. Donc cimetière, c'est plutôt aride et gravier. Ce sont donc des arbres qui naturellement, quand ils sont greffés sur amandier, sont adaptés à des sols pauvres, secs. Voilà. Et puis si vous avez une terre riche, vous pourrez toujours acheter un amandier greffé sur prunier. Si les pruniers réussissent chez vous, Alors, il y a toute une famille, là, qui s'appelle Prunus quelque chose. Donc, le Prunus dulcis ou Prunus amidalus, c'est l'amandier. Vous avez la prune, vous avez l'abricotier, vous avez le pêcher aussi. Et tous ces arbres, en fait, peuvent se greffer les uns sur les autres. Ça permet d'avoir une mise à une adaptation au sol et quelquefois une mise à fruit aussi rapide. Alors, l'amande douce, parce que vous avez une amande douce et une amande amère, et les amandes amères contiennent du cyanure. Donc,
oh,
voilà. Mais on sait débarrasser les produits dérivés de l'amande amère, en particulier les extraits de leurs toxines, et c'est avec ça qu'on parfume les pâtisseries. Bien que on remplace de plus en plus ça par les amandes d'abricot, parce que des amandes amères, il y a de moins en moins de gens qui en cultivent. Voilà, donc l'amande douce serait originaire d'Arménie, vous voyez, les plantes voyagent. Hein.
Oui.
Il faut penser qu'à une époque, on a eu sur la France, sur le bassin méditerranéen, une période glaciaire qui a fait que certains arbres qui étaient présents ont disparu et qui sont revenus par le biais de voyages, de guerres, et qui sont revenus s'implanter, ou de colonisation romaine par exemple, hein. C'était le cas du figuier qui était présent, qui est parti, puis qui est revenu. Et voilà. Donc, je vais vous parler de ces variétés. Alors, si vraiment vous n'avez pas de place, vous pouvez quand même avoir votre petit amandier. Il existe un amandier qui fait 1 mètre de haut, que vous pourrez soit planter dans un bac, soit en pot. Ou alors intégrer dans une plate-bande, ça peut être sympa, au milieu d'une plate-bande de fleurs, d'avoir un ou deux petits amandiers. Celui-là, il s'appelle Garden Price et il est auto-fertile, donc que du bonheur, c'est bien. On peut n'en avoir qu'un et on aura quand même des amandes. Et les amandes sont par contre de taille normale. Les fleurs roses sont tardives et voilà, c'est un petit bout de printemps un peu à l'avance.
Qu'est-ce qu'on en fait si on a un amandier et le fruit? Est-ce qu'il est...
Ah oui,
consommable comme ça de
sûr.
Suite.
Alors, moi, j'ai connu ça parce que, comme vous vous en rappelez peut-être, je suis née à Nîmes. Donc, à Nîmes, dans le jardin de ma grand-mère, il y avait deux amandiers. Donc, une amande qu'on appelait l'amande princesse. J'aime bien princesse.
Oui,
c'est charmant. Bon. Avec une coque, si je me rappelle bien, qui était plutôt tendre.
Je vous imagine petite.
Oui, non, mais voilà. Et en plus, ma grand-mère, elle avait un truc que j'aimais beaucoup. Elle gardait les coques des amandes. Alors, ça, elle passait des soirées à casser les amandes. Hein, et elle gardait les coques des amandes et elle les faisait infuser dans du lait.
Mais c'est un peu comme les noix, il faut les laisser sécher un peu. Enfin, comment ça se passe, hein?
Oui, alors, il y a deux options.
Expliquez-moi.
Vous pouvez les manger ce qu'on appelle en lait. Alors, quand vous les mangez en lait, vous les mangez au moment où la deuxième enveloppe extérieure qui ressemble à du velours, vert amande, hein.
Oui.
Ouais. Le qui ressemble à du velours est encore pleine de sève.
D'accord.
C'est cette enveloppe qui va se détacher après, tomber et laisser le bois de l'amande visible. Alors quand elles sont vertes comme ça, vous les cassez. À l'intérieur, vous avez une amande qui est juteuse et dont la petite peau extérieure n'est pas encore marron.
D'accord.
Donc ça s'épluche très facilement. Bon, les enfants adorent ça, c'est très très bon.
Ça, c'est comestible comme ça, de
voilà,
suite. Hein.
Voilà.
D'accord.
Alors, il faut attendre un peu quand même, parce que si vous essayez au début, à l'intérieur, vous avez une espèce de gelée qui ressemble à rien, il faut attendre quand même que ce soit. Et après, à l'automne, quand les feuilles tombent, vous avez les noix qui sont, les amandes qui sont sèches, et à ce moment-là, soit vous les ramassez par terre, soit vous les ramassez sur l'arbre, et puis vous les stockez. Donc, à la maison, ma grand-mère cassait les amandes, ma mère faisait des amandes pour l'apéritif.
Voilà.
Grand succès. Alors ça, c'était extra, parce qu'on avait les amandes pour tout l'hiver.
Parce que ça coûte cher, les amandes.
Voilà. Ouais. Et les gens de la famille...
Comment elle les faisait pour la pyro?
Alors, elle les étalait sur une plaque à four.
Oui.
Elle les vaporisait avec de l'eau. C'était les vaporisateurs qu'on utilisait pour le linge, par exemple.
Oui.
Après, elle mettait du sel dessus, du sel fin. et elle faisait griller, alors raisonnablement, il faut pas être carbonisé, mais il faut enlever l'eau qu'on a rajoutée et puis l'eau résiduelle qui peut rester dans l'amande. Et ensuite, elle enfermait ça dans des bocaux et on avait ça pour
l'apéro.
Voilà, pour l'apéro. On était autosuffisants pour l'apéro. c'était formidable. Voilà.
Et surtout que c'est pas donné aujourd'hui.
Ouais. Alors les cousins, quand ils venaient, ils disaient « Tata, il te reste des amandes ?» Avec le sourcil qui monte, là, tu sais, très très intéressé. Ah, c'était très sympa. Voilà, ça c'était les... Et alors c'est un arbre qui fait une ombre claire, donc dans le jardin, mon grand-père pouvait cultiver des légumes au pied aussi, parce qu'il faisait très très chaud déjà là-bas. Et donc c'était un arbre qui était intéressant pour ça. Pas exigeant du tout, ça poussait en garrigue, enfin c'était... Voilà. Si vous voulez tenter le semis d'amande, parce que c'est tout à fait possible... vous allez sur YouTube, vous trouverez, mais une des formules, c'est de glisser des amandes dans un... Alors, des amandes décortiquées dans un sachet à congélation, à zip, et de les coucher, en fait, sur un sopalin humide.
D'accord.
Vous les mettez au frigo.
Oui.
Et là, le germe va sortir. Enfin, pourquoi au frigo ? Parce qu'en fait, beaucoup de fruits de cette famille-là, les amandes, mais même les glands, les choses qui sont faites un petit peu comme ça, hein, en fait, vont commencer une germination en hiver sous la terre.
Ah, donc
et quand c'est... vous envoyez du froid, le message c'est ouh, il faut se réveiller, il faut commencer à germer.
D'accord.
Je le fais très bien, je trouve.
On va le garder voilà. Parce que. On va voir le copyright de ça.
Voilà. Et puis bon, on peut faire la même chose avec des pépins de pommes. Enfin, c'est super. Et donc, ah oui. on peut se retrouver. Voilà, ouais, voilà. Et après, on peut avoir sa collection de petits arbres sur le balcon en attendant de trouver un endroit favorable pour.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le pape Léon XIV a reçu ce jeudi matin les membres de la secrétariat d'État, l'occasion pour lui de remercier ses plus proches collaborateurs.